Et les midis, c'est reparti. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, je recevrai le compositeur Matthias Pintscher et le librettiste Daniel Arkadiusz Gerzenberg. Mais tout de suite, c'est le point culture de Sophie Catherine Gallet. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce mois de mars fait la part belle aux poètes, du printemps des poètes qui durera jusqu'au 31 mars, proposant des événements dans toute la France à des soirées de lecture de poésie organisées la semaine prochaine à la Fondation Lafayette Anticipation à Paris. Comment comprendre le regain d'intérêt pour ce genre littéraire et qu'est-ce que l'oralité apporte à la poésie? Rencontre avec la poète Gorge Bataille qui accompagnera la soirée du 17 mars à Lafayette Anticipation. Gorge Bataille, bonjour.
Bonjour Sophie Catherine.
Vous êtes poète et votre dernier recueil, Fatal ou l'impossible fantasme, a paru en 2025 aux éditions Trou Noir. Alors vous écrivez, vous cultivez le genre de la poésie depuis maintenant 15 ans. On observe un regain d'intérêt pour cette forme d'écriture. Aujourd'hui, comment est-ce que vous comprenez ce mouvement vers la poésie? Est-ce que pour vous, on peut parler d'une démocratisation de la poésie, justement?
Disons que je pense qu'il y a, oui, il y a un intérêt grandissant pour la poésie. Moi, j'aime bien me souvenir aussi que la poésie, elle a jamais été complètement morte. C'est vraiment une scène que je connais du coup depuis 15 ans et qui est vivante, qui est sonore, visuelle. Je pense qu'il y a un truc que la poésie permet, qui est l'oralité, et peut-être aussi qu'elle permet le rassemblement, et aussi dans le fait qu'elle puisse absolument répondre à une urgence, qu'elle répond à un monde libéral, à une langue qui se lit ou qui s'épuise, et que c'est un endroit d'invention, d'inventivité.
Aujourd'hui, il y a le Poetry Club qui existe, où on peut venir déclamer sa poésie. Il y a aussi depuis des années une autre institution à Paris qui s'appelle le Club des Poètes, qui permettait aussi d'entendre de la poésie dite. Et donc là, on parle de langue, justement d'oralité. Est-ce que pour vous, la poésie est un genre qui doit particulièrement se confronter à son public? Pas seulement être dite, mais vraiment se confronter à l'altérité?
Oui. Mais je pense que, par exemple, si on pense à Sappho, elle chantait ses poèmes. C'est vraiment l'oral est dans la poésie. Et c'est là qu'elle doit se faire. Et je pense que ce qui permet la poésie aussi, c'est d'inventer des espaces pour le faire. Je pense aussi aux premières scènes ouvertes que j'ai vues il y a plus de 10 ans à Montréal. Je suis ravie que ce soit enfin arrivé en France.
Oui, justement, quand vous avez commencé, il y a 15 ans maintenant, quels étaient les lieux possibles poétiques en France? Où ça se passait, la poésie, à ce moment-là?
Eh bien, c'était des lieux plus confidentiels. Il y a des lieux qui existent, qui sont le CIPM, tout ça, mais il y a aussi, je pense que c'est surtout aussi des lieux qu'on invente ou qu'on met en place. Voilà, je pense aussi à ce travail qu'on a fait avec RERQ, c'est un collectif d'autrices, on est 6, avec Wendy Delorme, Rebecca Chaillon, Camille Cornu, Star Finch et Times Ver. On est vraiment, on faisait partie en fait de premières moutures comme ça en 2019 où on imagine des choses avec comme Nous Brûlons par exemple un festival féministe. Enfin voilà, je pense que c'est lié aussi toujours à des scènes un peu politiques, féministes, queer. Enfin, je vois ça.
Et est-ce que vous voyez aussi une évolution du type de public peut-être qui vient maintenant à ces lectures de poésie?
Oui, je dirais que c'est large et je pense que ça amène quelque chose qui est essentiel à l'heure actuelle, qui est une sorte de curiosité, peut-être. Et je pense que la poésie, c'est le lieu de la permission. C'est-à-dire qu'on peut tout se permettre parce que ça répond à aucun système marchand et ça répond à aucune... On n'est plus dans les alexandrins. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une prose libre et ça permet à tout le monde de se projeter dedans, je pense.
Alors, vous allez accompagner, présenter des poètes et leurs œuvres lors d'un événement intitulé Front Poétique à la Fondation Lafayette Anticipation mardi prochain. Que pourra-t-on entendre lors de cet événement? Qui aussi et comment vous pensez mener cette soirée?
Alors déjà, je suis ravie de faire ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, que j'adorais faire quand j'étais libraire, c'est recevoir des autoristes. En fait, moi, ce qui m'excite beaucoup, c'est aussi de découvrir la voix de certaines personnes que je connais plus à l'écrit. Voilà, je pense notamment à Phoebe, Adji, Marcos, Clark. Voilà, donc je connais plus les textes écrits que je n'ai encore jamais entendus en lecture. Voilà, Shenadad, que je vais découvrir également. J'ai hâte d'entendre Chouf parce que je sais que c'est vraiment une voix, enfin, c'est une poésie qui vient de l'oralité, de quelque chose, d'une prise de parole, presque du slam ou du spoken word. Et ça, voilà, je sens que ça va être très fort. Et Sarah Mishkin est une autrice que je connais laquelle j'ai pas mal lu sur scène aussi, donc je sais que c'est sublime. J'ai hâte de voir où ça en est maintenant. Et il y aura un inédit qui sera de Wendy Delorme et Claude Yolande qui feront quelque chose ensemble pour la première fois. Voilà.
Et on parle d'oralité là, mais ce qui est intéressant avec vos propres textes, pour venir vers ce que vous créez, c'est qu'il y a notamment un travail de typographie qui est très important, qui permet de déconstruire aussi la langue, de la lire différemment en tout cas. Comment vous faites entendre cette typographie en lecture ?
Eh bien, disons, je pense que ça se travaille, une langue non binaire à l'oral. Après, je pense que c'est ça qui est aussi le plus chouette. Par exemple, quand je dis mes gnix, mes sanx, il y a quelque chose qui... Enfin, voilà, on revient toujours à une musicalité dans la langue. Et après, donc, moi, je travaille avec des typographies donc post-binaires qui sont dessinées par une collective franco-belge de typographes qui s'appelle By Binary. Ce que j'aime, c'est que ça me permet aussi de travailler à quelque chose de collectif, que l'écriture, ça peut être solitaire quand on le, effectivement, quand on écrit, mais qu'à la fin, c'est quand même toujours une aventure collective. Voilà, je réinterviens dans la langue, du coup, avec des nouvelles ligatures.
Et est-ce que vous pourriez faire entendre plutôt aux auditeurs justement la spécificité de cette typographie, nous raconter ce qu'on peut lire?
Eh bien, là, par exemple, si je prends une phrase de Vormage et Fatale avec moi, elle a fait tatouer sur Saon cœur, perverse, prolétaire. Il y a vraiment Saon, c'est un... Il y a le A et le On qui sont liés. Et voilà, parce que c'est comme si, là, le cœur était débinarisé. Et voilà.
Et donc, on l'a compris dans vos textes, il y a vraiment un travail de la langue, une distorsion même parfois, et aussi de nombreuses féminisations de mots masculins, comme l'amour, écrit avec un E à la fin. Et dans ce travail, il y a quelque chose qui évoque Monique Wittig et son propre travail sur le genre. Est-ce que c'est une filiation dans laquelle vous vous inscrivez ?
Oui, complètement. Bien sûr, il y a le travail de Monique Wittig, il y a le travail de Michel Cause, qui est une auteure expérimentale. Je me sens vraiment du côté de l'écriture expérimentale. Donc il y a cette recherche là évidemment, mais il y a aussi le travail de Cathy Hacker qui m'a beaucoup marquée, qui est une auteure punk américaine qui travaille vraiment sur le trouble identitaire, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse.
Enfin, pour une dernière question, dans vos textes, on retrouve la mention d'autres poètes, et notamment d'Arthur Rimbaud. Alors, Arthur avait écrit avec un E à la fin. Est-ce qu'il s'agit pour vous de réinventer la figure tutélaire que ces poètes peuvent représenter, et peut-être, c'est peut-être un peu fort ce que je veux dire, mais peut-être la mainmise aussi qu'ils ont sur l'inconscient collectif qu'on a de la poésie ?
Ouais, absolument. Il y a une espèce de dommage, quoi qu'il en soit. Mais il y a aussi une volonté, oui, de se poser la question de qui serait le Arthur Rimbaud d'aujourd'hui. Et le Arthur Rimbaud d'aujourd'hui, moi, quand je me pose la question, je me dis que c'est une meuf et qu'elle est Gwyn, par exemple, quelque chose comme ça. C'est se réemparer, en fait. C'est réinscrire l'histoire de la poésie.
Merci beaucoup, Gorge Bataille.
Merci beaucoup, Sophie Catherine.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, on a appris ce jeudi le lauréat du prix Pritzker de l'architecture.
Oui, l'annonce du lauréat a été retardée d'une semaine à cause de la proximité de l'homme d'affaires Thomas Pritzker avec le milliardaire pédocriminel Jeffrey Epstein. Le prix surnommé Nobel des architectes a finalement été décerné au Chilien Smiljan Radic-Clark, connu notamment pour le pavillon de la Serpentine Gallery à Londres, avec sa coque translucide en fibre de verre suspendue sur des pierres brutes monumentales. Poète de la matière, son travail paraît souvent, je cite, « austère ou élémentaire », mais cette impression dissimule une ingénierie et une construction précise, selon la fondation basée à Chicago qui décerne le prix.
Des pépites de la peinture française du XVIIIe siècle aux enchères à Paris.
Christie's met en vente le 25 mars prochain un ensemble de 30 chefs-d'œuvre provenant de la collection d'Arthur Georges Veille Picard. Très peu exposée, cette collection de tableaux et de dessins compte parmi les plus mystérieuses, restées à l'abri des regards depuis près d'un siècle. La vente réunit les grands noms de la peinture française du XVIIIe siècle, avec notamment Jean-Honoré Fragonard, Hubert Robert, Jean-Antoine Watteau et Elisabeth Vigée-Lebrun. Parmi les œuvres de Fragonard, on retrouve la pièce maîtresse, L'heureuse famille, peinte dans les années 1770, et considérée par les historiens comme la première de plusieurs versions. Les œuvres seront visibles gratuitement du 20 au 25 mars. Plus d'informations sur la page du Point Culture.
Et Et pour finir, Sophie-Catherine, le festival de cirque Spring a commencé ce lundi en Normandie.
Spring est un festival des nouvelles formes de cirque qui se déroulera dans 70 lieux un peu partout dans la région normande, et ce jusqu'au 8 avril. Cette 17e édition, avec 42 spectacles et pas moins de 132 représentations, propose des bricoleurs fous, de la magie, du vent, de l'impossible et des instants suspendus.
Très beau. Merci Sophie-Catherine, bon week-end.
À vous aussi.
Il est 13h et vous écoutez France Culture.